Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez Les Oreilles Loin du Front jusqu'à 8h30 et on poursuit donc suite et fin de notre série consacrée au Liban. Il y a 15 jours, nous avons reçu des communistes libanais pour avoir le point de vue sur place un peu de...
D'une partie des acteurs du conflit, en tout cas.
Et puis qui avait suscité des débats. La semaine dernière, c'était une interview de... C'était qui ?
Dominique Vidal.
Dominique Vidal, j'allais dire Maurice Lemoine, mais non, on n'est pas dans le même continent. Donc de Dominique Vidal. Donc la... Et puis on poursuit donc cette semaine avec la restitution d'une petite conférence, un petit débat qui avait lieu dans un bar à Paris, dans le 20e, la semaine dernière. Donc c'est le point de vue des militants aujourd'hui en France. C'est ça que...
Voilà, alors là, c'était en l'occurrence, vu que c'était à côté de chez moi, j'y suis allé. c'était un truc organisé par la LCR. Et donc il y a deux militants qui sont assez actifs sur ces questions du Moyen-Orient, Nicolas et Mireille, qui venaient un petit peu exposer. Puis il y a eu un débat dans la salle autour d'un certain nombre de questions. C'est qu'est-ce que peut être la position aujourd'hui de l'extrême gauche sur la situation nouvelle, ou sur la situation au Liban. Et effectivement, la situation nouvelle, c'est-à-dire l'émergence d'un acteur absolument incontournable qu'est le Hezbollah. Et alors, si la situation est pas toujours faite pour nous plaire, hein, on voit ça de voir un interlocuteur avec ce qu'il est, son histoire, son positionnement politique et religieux. En tout cas, tout le monde convient qu'il est absolument nécessaire de comprendre qui il est et comment composer avec aujourd'hui, et entre autres dans le cadre d'une solidarité internationale. Alors, tout de suite, on va écouter ça. C'est un peu un son à la Guillaume Yom, hein, c'est-à-dire que il faut tendre l'oreille, mais nous, on a fait l'effort d'aller enregistrer. Il faudra faire l'effort d'écouter, puisque le son a été fait par notre camarade Gwen. Gwen, qui est un peu ton disciple, Guillaume. Enfin, je veux dire, qui a appris avec toi comment on faisait une prise de son, quoi. On va donc revenir sur l'introduction de ce débat qui on est parti, le débat est parti sur le fait que la France qui allait participer à la FINUL n'était pas neutre au Liban, en tout cas, puisque dès les années 30 et 40, c'est les Français qui ont tiré sur les premières expressions d'un nationalisme libanais, sur les premières manifestations nationalistes libanaises. Et puis, dans les années 80, voilà ce que nous explique Nicolas sur la France au Liban.
La France a envoyé des troupes en 1982 avec les États-Unis, et aujourd'hui, la France encore envoie des troupes au Sud-Liban, et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est une mission de paix, que c'est une mission d'interposition. On peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une mission d'interposition quand on s'interpose que d'un seul côté. Le problème, il est aussi là, c'est qu'effectivement, les troupes de la France et des autres pays qui vont se déployer ne se déploient qu'au Liban et ne se déploient pas en Israël. Là, on a encore un cas unique, c'est-à-dire que d'habitude, dans un conflit, les troupes se déploient sur les deux côtés. Or là, on a des troupes qui se déploient que d'un côté. Donc, je voulais juste commencer par ça, par ce refus absolu, ce refus politique qu'on doit avoir du déploiement des troupes françaises au Liban, parce que la France n'est pas un État neutre. Elle n'est pas un État neutre pour une deuxième raison, c'est que depuis automne 2004, la France, avec les États-Unis, fait une offensive politique au Liban. Elle a fait cette offensive politique d'abord pour le retrait des troupes syriennes, mais derrière le retrait des troupes syriennes, il y avait effectivement la question du désarmement du Hezbollah et du désarmement des milices libanaises. Donc en automne 2004, la France et les États-Unis ont rédigé une résolution, qui était la résolution 1559, La résolution 1701 qui a été faite en août se situe complètement dans le prolongement de la 1559. La 1559, donc c'était quoi? C'était le désarmement du Hezbollah, et c'était surtout la France qui se réimplante au Liban. Et ça, il faut bien comprendre ça, c'est qu'actuellement la France n'est pas un acteur neutre, c'est un acteur qui cherche à se redéployer politiquement au Moyen-Orient, parce qu'effectivement, avant, quand les Américains sont intervenus en Irak en 2003, la France avait perdu un peu de ses assises au Moyen-Orient, et grosso modo, c'est un espèce de partage de la région qui se joue depuis 2004, un partage entre qui et qui, un partage entre les Français et les Américains. Aux Américains, je dirais l'Irak, à la France, le Liban, et chacun comme ça se partage le Moyen-Orient. On est toujours dans la logique coloniale qui existe depuis le début du siècle et qui existe notamment depuis les accords Sykes-Picot de 1914. Quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au Liban, je pense que le Liban est redevenu central. Il a été central dans les années 70 et 80 parce qu'il y avait à l'époque la résistance, notamment menée par la gauche libanaise, et par le mouvement national palestinien. À l'époque, le Liban avait une centralité politique au Moyen-Orient parce que c'était là où effectivement se jouait la majeure partie de la résistance et à Israël et effectivement à toutes les logiques coloniales et impérialistes. Le Liban est redevenu un peu ce centre, peut-être temporairement, mais est redevenu ce centre de la lutte anticoloniale au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en juillet août 2004, il y a eu une espèce de révolution, c'est-à-dire pas une révolution au sens propre, mais une révolution symbolique, c'est-à-dire pour la première fois depuis 1948, c'est-à-dire pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, Israël s'est retrouvé en véritable difficulté, bien plus qu'elle n'a été par exemple en 1973 lorsque les armées arabes avaient attaqué Israël. Il faut bien comprendre que là, Israël est en train de traverser, je dirais, une crise politique, militaire et morale. Et les trois sont extrêmement liés. Parce que pourquoi ? Parce que là, l'armée israélienne n'a pas réussi à écraser le Hezbollah. Et ça, c'est central. Parce que pourquoi ? Parce que l'armée en Israël a une centralité politique et historique. Il y a un historien israélien qui a dit, je le répète à chaque coup, mais il faut bien s'ancrer ça dans la tête, c'est que Israël, c'est pas un État qui s'est doté d'une armée, c'est une armée qui s'est dotée d'un État. Et Israël a été créé, effectivement, à partir du travail d'une milice qui s'appelait la Haganah, qui plus tard s'est transformée en Tsahal. C'était en 1948. Donc la centralité de l'armée en Israël, c'est extrêmement important. Or, lorsque l'armée se retrouve en difficulté, lorsque l'armée est incapable d'écraser un adversaire, lorsque l'armée est obligée de reculer, lorsque l'armée n'arrive pas à prendre des villages qui sont des petits villages, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, le sud Liban, c'est une petite région, hein, et l'armée israélienne n'a pas pris des villages comme Kriam, hein. Kriam c'est un minuscule village de 2-3 000 habitants, ils ont mis deux jours à entrer dans Kriam pour se faire repousser au bout de 2 jours, donc ils ont eu à faire face à une résistance populaire, mais surtout, c'est la première fois que leur armée recule par rapport à une résistance populaire, et ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc aujourd'hui, il y a une crise politique, morale et symbolique qui s'est ouverte en Israël, et au Moyen-Orient, c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est, au sens propre, un séisme politique. Ça a été un séisme politique, pourquoi aussi ? Parce que les Libanais ont refusé la logique dans laquelle ils étaient tombés dans les années 80, c'est-à-dire la logique de la guerre civile. Dans les années 80, lorsqu'Israël était intervenu au Liban, elle s'était appuyée sur des forces politiques libanaises, à l'époque ce qui s'appelait les forces libanaises, les phalanges, qui étaient donc la droite chrétienne essentiellement. Or là, pendant le conflit en juillet et août, ce qui est absolument incroyable, c'est que Israël et les États-Unis n'ont pas trouvé d'alliés au Liban. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que une partie de la communauté chrétienne a soutenu Hezbollah politiquement, notamment le général Michel Aoun, qui a fait un accord politique avec Hezbollah depuis février 2006. Donc ça, c'est la première chose. Ils n'ont pas réussi à diviser les musulmans et les chrétiens comme ils avaient essayé de le faire au cours des années 80. Donc là, il y a une première révolution. Et la seconde révolution, c'est qu'effectivement, il y a eu une véritable résistance populaire qui n'est pas que la résistance de Hezbollah. Il y a une première résistance. Je veux dire, il y a eu trois résistances au Liban, et c'est ça, personne s'y attendait. Je pense que ça a surpris Hezbollah, ça a surpris d'autres forces politiques comme le Parti communiste libanais, comme beaucoup de forces politiques ont été surprises par la mobilisation de la population. Il y a eu trois résistances. C'est quoi les trois résistances ? La première résistance, c'est effectivement la résistance politico-militaire de Hezbollah, avec des brigades militaires au sud qui ont résisté d'une manière absolument incroyable. Elles ont résisté d'une manière incroyable. Pourquoi ? Parce que ces milices, c'est pas des milices qui viennent d'Iran, c'est pas des milices qui viennent de Syrie, c'est des milices qui sont constituées de jeunes, tout simplement, qui habitent dans les villages. Ce sont les jeunes des villages qui ont résisté, et ça il faut bien comprendre. Ce sont ces jeunes qui ont les armes, et ce sont aussi ces jeunes qui travaillent dans les champs, ce sont ces jeunes qui sont dans les magasins, ce sont ces jeunes. C'est vraiment les jeunes des villages, et c'est. Quand on parle de résistance populaire, c'est parce que ça a été la résistance du sud-Liban au sens propre. Donc ça, c'est la première résistance, la résistance politico-militaire de Hezbollah. La deuxième résistance, ça a été la résistance politique large, parce qu'autour de Hezbollah, il y a eu une alliance, et il y a eu la création de ce qu'on appelle, de ce qui s'est appelé le Front National de la Résistance, tout simplement, qui était constitué de beaucoup d'autres partis, qui était constitué notamment du Parti communiste libanais, qui était composé d'autres forces de gauche, comme le Parti du Peuple de Najib Wakim, qui est une organisation nationaliste arabe de gauche, de la troisième force de l'ancien Premier ministre Selim Hosse, c'est-à-dire tout... Disons, toutes les organisations nationalistes arabes et plutôt gauchisantes, nassériennes, etc., se sont alliées à Hezbollah. Il y a eu également le parti Amal, qui est l'autre grand parti de la communauté chiite, et il y a eu enfin le courant du général Michel Aoun. Donc on a eu une résistance qui a associé des courants islamistes, certes, mais qui a également eu avec elle des courants séculiers, laïcs, qui a eu avec elle des courants nationalistes arabes, qui a eu avec elle des courants de gauche, et qui a eu avec elle surtout également une partie de la communauté chrétienne. Et cette résistance politique large a été allée très loin, puisque même dans le sud, il y a eu la constitution en juillet et août, et ça dans les médias naturellement personne n'en a parlé, mais il y a eu la constitution d'un espèce de conseil général de la résistance au niveau militaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une coordination militaire entre le Hezbollah et les miliciens du Parti communiste libanais, et là aussi il y a une révolution, puisque le Parti communiste libanais avait abandonné la lutte armée depuis plusieurs années, et là le Parti communiste libanais, dans un de ses communiqués à la fin juillet, à appeler officiellement ses militants à participer au combat au Sud-Liban pour une simple et bonne raison, c'est qu'au Parti communiste libanais, il y a beaucoup de militants qui sont chiites, qui sont issus du Sud-Liban, et que ces jeunes dans les villages, effectivement, voulaient aussi se battre aux côtés de Hezbollah. Donc, voilà les deux premières résistances, la résistance politico-militaire de Hezbollah, la résistance politique large, et puis il y a une troisième résistance, qui est la résistance que j'appellerais sociale, c'est-à-dire que en juillet et août, il y a eu quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire des milliers de jeunes, ça a été quelque chose de très fort dans la jeunesse, se sont véritablement engagés volontairement dans toutes les actions de volontariat, mais de volontariat pas seulement humanitaire, mais sur une ligne politique. C'est ça qui est absolument incroyable. Il y a eu un réseau d'ONG qui s'appelle Samidoun, qui veut dire les résistants, grosso modo, un rassemblement de 17 ONG regroupant énormément de jeunes. Donc il y avait un travail humanitaire d'aider les réfugiés, d'accueillir les réfugiés dans les écoles, etc., de reconstruire les routes, de donner de la nourriture, mais ils étaient sur une ligne politique de soutien à la résistance, et là aussi c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que même la mobilisation de la population et de confessions qui ne sont pas chiites, comme la communauté chrétienne sunnite, etc., on voyait beaucoup de jeunes s'engager dans un travail humanitaire de soutien aux réfugiés, et également dans un soutien politique clair à la logique de résistance face à Israël. Donc ça c'est extrêmement important, c'est ces trois résistances qui ont été extrêmement articulées, et c'est très important parce que, encore une fois, les États-Unis et Israël n'ont pas réussi à diviser la population libanaise. Ils n'ont absolument pas réussi, puisque même le gouvernement libanais, qui théoriquement est leur allié depuis 2004, même ce gouvernement libanais a pris fait et cause sur le coup, non pas tant pour la résistance, mais il a noué une alliance avec Hezbollah parce qu'il refusait l'agression israélienne. Donc, c'est-à-dire que là aussi, c'est une défaite immense pour Israël, parce que non seulement ils ont échoué militairement, mais ils ont aussi échoué politiquement à diviser les Libanais, et aucune des revendications israéliennes n'a été satisfaite, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à libérer leurs prisonniers, ils n'ont pas réussi à désarmer Hezbollah eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à obtenir le désarmement de Hezbollah par la FINUL, puisque le mandat de la FINUL, il faut s'en souvenir, ce mandat, il n'est pas très clair, mais il y a au moins une chose qui dit, c'est-à-dire que la FINUL n'a pas le droit de désarmer elle-même Hezbollah, et doit aider l'armée libanaise à le faire, c'est-à-dire que c'est un échec pour Israël. Israël, au début, voulait que ce soit l'OTAN, que ce soit les troupes de l'OTAN qui viennent au Liban pour désarmer elles-mêmes Hezbollah. Non seulement l'OTAN a été refusée, c'est-à-dire que ni la France ni les États-Unis n'ont réussi à imposer au gouvernement libanais la présence des troupes de l'OTAN, mais en plus même les troupes de l'ONU qui vont venir n'ont pas le droit dans leur mandat de désarmer par elles-mêmes Hezbollah. Par contre, ce qui est extrêmement dangereux dans cette résolution, c'est qu'effectivement, maintenant on va avoir 14 000 hommes de troupes au Liban, à majorité française, bon, il va y avoir d'autres troupes également turques, etc., qui sont un peu donné un aspect multiculturel, disons, à cette force de la FINUL. Mais cette force de la FINUL, le danger, c'est que rien n'empêche que demain, il y ait une nouvelle résolution disant que ces 14 000 hommes de troupes qui aujourd'hui sont au Liban, rien ne dit qu'ils n'auront pas le droit de désarmer Hezbollah. Il peut y avoir demain une nouvelle résolution, américano-française ou américaine, on verra. Mais il peut y avoir une nouvelle résolution disant voilà, les 14 000 hommes de troupes qui sont là avec leurs chars, puisque vous savez qu'il y a 12 chars Leclerc qui sont déployés également au Sud-Liban, ces 14 000 hommes de troupes peuvent désarmer Hezbollah. Rien n'empêche cette logique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on doit refuser la résolution 1701? Parce qu'elle met le doigt dans un engrenage extrêmement gravissime. Et pourquoi, limite aussi, on est contre cette logique de désarmement de la résistance? Parce qu'il est hors de question, naturellement, de désarmer un mouvement, alors que celui qui est en tort dans l'affaire, c'est quand même Israël. Je veux dire, l'action de Hezbollah qui a été de capturer deux militaires israéliens, d'abord, ce ne sont pas des civils, on va commencer par ça, mais deuxièmement, non seulement Israël occupe encore des territoires libanais, puisqu'elle occupe les collines de Kfar Chouba et les fermes de Shebar, donc c'est Israël qui occupe des territoires libanais, on n'est pas dans un cadre où c'est les Libanais qui sont en Israël, on n'est pas dans un cadre où c'est les Libanais qui depuis des années agressent Israël, on est dans un cas où c'est Israël qui occupe encore une partie du Liban. La deuxième chose, c'est que Israël a 10 000 prisonniers palestiniens et plusieurs dizaines de prisonniers libanais dans ses prisons, et que ça aussi c'est proprement inacceptable. Donc, c'est pour ça qu'on doit refuser aussi cette résolution de l'ONU, parce que la résolution 1701 accuse les Libanais et accuse Hezbollah de toute, elle dit, la responsabilité du conflit c'est Hezbollah, et la responsabilité du conflit ne revient pas à Israël. Grosso modo, c'est le message principal de la résolution 1701. Donc c'est une résolution qui est profondément déséquilibrée, c'est une résolution qui est tout à fait injuste, et donc c'est pour ça que nous, politiquement, on doit la refuser. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, c'est revenir sur cette notion. Maintenant, on ne peut plus penser le monde arabe, grosso modo, comme avant, parce que il faut bien considérer que ce qui s'est passé en juillet et août 2006, quand je dis révolution, c'est-à-dire que ça a été une révolution dans les mentalités. C'est la première fois depuis très très longtemps que les gens se disent non seulement on est capable de résister, mais en plus on peut gagner. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que les Palestiniens actuellement ne sont pas dans cette logique. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire chez les, on est passé d'un terme à un autre. Chez les Palestiniens, le terme, souvent, et chez les Libanais aussi, dans tout le monde arabe, le terme c'était shahid, c'est le martyr. Or là, pendant le conflit, le terme shahid, martyr, il a été remplacé par le terme mujahid, le combattant. Et ça, passer du martyr au combattant, c'est une véritable révolution dans les mentalités. Ça veut dire que quand on résiste, on n'est pas obligé de mourir. C'est-à-dire que quand on résiste, on peut gagner, on peut même repousser l'adversaire à ses frontières. Et ça, c'est quelque chose, c'est une véritable révolution. Et partout dans le monde arabe, pendant ces deux mois, on a vu des manifestations en Égypte, au Yémen, en Jordanie, etc. On a vu des gens qui ne sont pas chiites, qui ne sont pas islamistes, afficher les portraits de Nasrallah. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que souvent dans les manifestations en Égypte, les deux portraits qui étaient brandis par la population, c'était les portraits de Hassan Nasrallah et c'était les portraits de Nasser. Et pourquoi ? Parce que les deux personnages représentent effectivement deux figures anticoloniales dans la conscience populaire arabe, deux figures anticoloniales majeures. Et ça, ça a été quelque chose d'énorme. Moi, il y a une histoire qui m'a beaucoup surprise, mais on a vu même des gens faire des actes tout à fait inconsidéré au Caire. Il y a eu un homme qui, dans son taxi, a planté un drapeau de Hezbollah et qui a fait cette fois le tour du ministère de l'Intérieur en voiture. Au bout d'un moment, les services de sécurité l'ont capté, qui faisait exprès comme ça que c'était une provocation. Et ils ont arrêté ce type. Mais ce type n'était pas au frère musulman, ce type n'était pas dans un parti nasserien, ce type n'avait jamais manifesté de sa vie. Mais ce type, d'un coup, se disait « Moi aussi, je vais faire quelque chose, disons, d'aventuriste. Moi aussi, je vais défier le pouvoir. » Et c'est là où il y a eu une véritable révolution dans la mentalité. C'est pour ça que je pense que cet événement va marquer pendant longtemps le monde arabe. Cet événement va transformer beaucoup de choses et on va voir, il faudra un certain temps pour calculer toutes les répercussions de cet événement. Et de ce point de vue-là, la résistance libanaise, je dirais, ça a été une résistance complètement exemplaire.
Voilà, on est toujours dans le bar Retour au Sorbier, qui se situe rue Sorbier. Je crois que ça s'entend un petit peu dans ce qu'on entend. Ça se passait donc le 14 septembre. C'était une réunion autour du Liban. Alors, on va écouter maintenant Mireille. Mireille qui était cet été au Liban. Et Mireille qui va nous raconter une petite histoire. Enfin, la vraie histoire de l'enlèvement du soldat Shahid à Gaza.
Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Nicolas là, sur la question des chaïds et tout, je vais quand même vous raconter une anecdote, parce que si vous vous souvenez bien de la raison de la guerre au Liban, c'était au départ, il y a eu l'enlèvement du soldat Chalit, et puis ensuite l'enlèvement des deux soldats au Liban qui a fourni le prétexte à Israël pour envahir officiellement le Liban, alors qu'elle le fait sans arrêt au sud du Liban en permanence, mais enfin bref. Ce que nous a raconté un journaliste palestinien là, au mois d'août qui était présent, c'était que l'enlèvement du soldat au checkpoint Gaza était une opération prévue de longue date. Ils avaient évidemment creusé le tunnel pendant 3 mois, ce qui représente un tunnel sous un checkpoint qui est en fait une véritable forteresse gardée par des tanks, avec des murs en béton de 8 mètres, etc., avec des miradors. Ils ont quand même réussi à creuser dessous un tunnel de plusieurs centaines de mètres. Et ils sont ressortis de l'autre côté. Le commando qui a fait cette attaque était un commando suicide, c'est-à-dire qu'il s'attendait à mourir. Et ils n'avaient pas l'intention ni de faire des prisonniers, ni de rentrer. Ils étaient venus pour mourir là. Et puis, quand ils sont sortis du tunnel, il y avait effectivement 4 tanks. Dans un tank, il y avait des soldats qu'ils ont tués. Et puis, les 3 autres étaient vides. Et donc, ils ont attendu, parce que ce check est connu comme un endroit stratégique, très surveillé, etc. Ils ont attendu que les renforts arrivent et qu'il y ait la bataille. Et ils ont attendu de mourir en chaïd dans l'affrontement. Et puis, au bout d'une demi-heure, ou 3 quarts d'heure, personne n'était encore arrivé. Ils ont commencé à s'ennuyer, donc ils ont fait sauter le mur. Ils ne sont pas repassés par le tunnel. Ils ont fait sauter le mur et ils sont rentrés chez eux. Et il y avait ce soldat qui était blessé, il ne savait pas quoi en faire. Et comme ils ne voulaient pas le laisser crever là, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Donc, ils l'ont emmené à l'hôpital à Gaza. Et puis après, bon, ben, les choses ont pris l'ampleur qu'on connaît. Mais voilà comment en réalité s'est passée l'histoire de l'enlèvement du soldat Chalit, ce qui est assez amusant comme histoire. Bon, à part ça, la situation en Palestine... La situation en Palestine, bon, ça ne s'améliore pas tellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'au point de vue moral, Nicolas en a parlé, bon, et c'était très très net, il y avait par rapport à il y a quelques mois, il y avait une énorme différence qui était vraiment visible, c'est qu'effectivement, il y a des portraits d'Hassan Nasrallah partout, et du moins, peut-être un petit peu moins, je dis ça pour une copine qui dit que c'est retombé maintenant, que c'est peut-être un petit peu moins maintenant, mais du moins au niveau de... Au mois d'août, c'était un enthousiasme absolument gigantesque, il y avait des portraits de Nasrallah partout, des drapeaux du Hezbollah partout, et une immense fierté, parce qu'enfin, une guérilla arabe avait pour la deuxième fois consécutive battu cette armée réputée invincible, parce que c'est quand même la deuxième fois, parce qu'ils les ont déjà battus en 2000, ils les ont déjà forcés à sortir du Liban en 2000, donc ils les ont battus une deuxième fois, et les Palestiniens étaient très très fiers de ça. Et ça leur redonne espoir pour la Suisse, ça leur redonne espoir dans la résistance. Alors la résistance, il y a la question de la force d'interposition que Nicolas a évoquée, et c'est un vrai débat, parce que la question de demander ou non une force d'interposition, c'est un débat à l'intérieur de la résistance palestinienne, c'est un débat au niveau des partis politiques. Par exemple, Abbas est pour une force d'interposition. La gauche est contre une force d'interposition, parce que viendrait faire, de même que le risque est évidemment présent au Liban, que cette force d'interposition s'ingère dans les affaires libanaises et fasse accepter, ou réaliser du moins, par la force et par sa seule présence, et les pressions qu'elle peut exercer sur telle ou telle partie, les Druzes, les chrétiens, maronites et compagnie, faire accepter l'application des résolutions 1559 et 1701. De même, en Palestine, l'arrivée d'une force internationale voudrait dire l'arrêt de la résistance, de fait, et le fait de figer les frontières, en fait, telles qu'elles sont actuellement, c'est-à-dire une Palestine qui est actuellement coupée en trois maintenant, et ça devient très net, trois plus la bande de Gaza. Hein. Mais la Cisjordanie elle-même est déjà coupée en trois. Hein. Il y a le nord de la Cisjordanie, avec Naplouse, Jenin et Qalqilia. Il y a la colonie d'Ariel et le mur qui est en train de couper au sud de Qalqilia, qui est en train de couper complètement la partie nord, c'est maintenant plus possible pratiquement quand on habite à Ramallah d'aller à Naplouse. Même en passant avant, c'était toujours possible. Il fallait, pour faire 40 km, il fallait 7 heures, 8 heures, 10 heures, mais on y arrivait. Maintenant, c'est quasiment devenu impossible. La partie centrale avec Ramallah, Jérusalem-Est, qui est en train d'être totalement découpée par le mur, les quartiers entiers de Jérusalem-Est sont complètement isolés du reste de la Cisjordanie, et de fait vont être annexés. Et la partie sud avec Al-Khalil, Hébron, et il y a une zone qui risque d'être un petit peu... On ne sait pas encore quel va être son sort, c'est Bethléem, mais qui est en train d'être de fait également d'être annexé. Hein. Mais bon, c'est encore un peu délicat pour les Israéliens à cause des chrétiens et des rapports de force vaticanesques. Bon, donc là, il y a trois zones, et actuellement, il y a pratiquement plus de communication entre les trois zones. Le mur avance à une vitesse incroyable. Ensuite, il y a la question de Gaza. Bon, Gaza qui, soi-disant, a été évacué par l'armée israélienne. En fait, Gaza est toujours complètement occupé à tous les niveaux, physiquement, parce qu'il y a des incursions, des bombardements, mais des incursions aussi physiques, avec des tanks, etc., et les bombardements permanents. Elle est occupée parce qu'aucun des points de sortie de Gaza n'est libre. C'est-à-dire qu'aucune circulation des biens et des marchandises ne se fait sans l'accord d'Israël. Il faut savoir que les tchèques de Rafah, Erep, c'est complètement fermé, de toute façon la question ne se pose même plus, le checkpoint au nord de la bande de Gaza, mais les checkpoints au sud de Karmi et de Rafah ont été fermés 180 jours en un an, la moitié du temps. Fermé complètement, parfois pendant des semaines, c'est-à-dire pendant des semaines, il n'y a plus rien qui arrive dans la bande de Gaza. Et ils sont occupés à l'intérieur même de la bande de Gaza par le fait que c'est toujours Israël qui contrôle toute la vie sociale, par exemple, si vous voulez une carte d'identité ou un passeport, et ben, vous allez peut-être le demander à l'administration palestinienne, mais ce sont les Israéliens qui vont vous donner ou non le passeport, le visa, l'autorisation de sortie, etc. À l'intérieur de cette bande de Gaza, c'est pas du tout le... C'est toujours pas un État palestinien, il y a toujours aucun pouvoir et ils sont toujours complètement dépendants des autorisations israéliennes pour entrer et pour sortir.
Voilà, on continue à écouter des extraits de la conférence rencontre-débat organisée jeudi dernier, le 14 septembre, par nos petits camarades de la LCR dans le 20e. Et donc là, on va réécouter Mireille qui répondait à une question de la salle sur les tensions internes entre Palestiniens au sein de l'autorité. Et donc, Mireille.
Tu parles des tensions politiques. On est bien d'accord. Ouais. Bah, parce que des tensions physiques, il y en a eu un petit peu aussi à un moment donné. Il y a eu pas mal d'accrochages à un moment donné. Ça s'est calmé assez rapidement. Hein. Je crois que ce qui est très très net à l'intérieur du peuple palestinien et du mouvement, c'est qu'il y a, de tous les mouvements de résistance, c'est qu'il y a une réelle volonté de ne pas aller à l'affrontement direct entre Palestiniens. Et c'est chaque fois qu'il y a eu des accrochages, en particulier au moment où Hamas a voulu faire sa propre police contre la police de l'autorité palestinienne, qui évidemment est à 90% Fatah, il y a eu à un moment donné quelques accrochages. Bon, les choses se sont calmées assez rapidement sur ordre des autorités politique de chaque parti en disant on calme le jeu, etc. Maintenant, les tensions politiques, évidemment, elles existent. Il y a des projets politiques différents derrière. Mais le projet politique de Hamas est un petit peu compliqué à comprendre parce qu'eux-mêmes, je crois, naviguent à vue et ne savent pas très bien où ils vont aller. Il faut savoir que Hamas, il y a un an et demi de ça, au moment des accords du Caire, au moment où il y avait eu des accords entre tous les mouvements de la résistance palestinienne, avait signé un document où il reconnaissait l'existence de l'État d'Israël. Et où il reconnaissait l'existence de deux États. Ce document, il avait signé il y a un an et demi. Et puis, au moment des élections, étant donné le succès inattendu, hein, parce que c'était inattendu de leur, pour eux-mêmes, hein, de leur liste, de leur candidature, ils sont revenus en arrière sur des positions beaucoup plus dures, en rejetant toute possibilité de reconnaissance. Et puis ils sont encore revenus en arrière avec le document des prisonniers, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un document qui a été signé dans les prisons entre tous les partis politiques largement représentés dans les prisons, parce que je vous rappelle qu'il y a 9000 prisonniers palestiniens, dont une grande partie, plusieurs centaines, même quelques, on peut dire milliers, sont des enlèvements. Hein. On ne parle pas de 3 soldats, là, on parle de milliers de gens qui ont été enlevés chez eux, dans leur lit, etc. Mais ça, c'est normal, c'est des Palestiniens. Pendant que j'étais là-bas, ils ont enlevé chez lui, à 4h du matin, le vice-ministre de l'autorité palestinienne, Hamas. Il a été enlevé. Bon, ça n'a ému personne. C'est parfaitement normal d'enlever un Palestinien élu à ministre à 4h du matin. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Quand le document des prisonniers est sorti, il était implicite dedans que Hamas reconnaissait à nouveau l'État d'Israël, puisqu'il y avait deux États dans le document des prisonniers. Donc il y a une espèce de navigation à vue du côté de Hamas qui ne sait pas très bien comment il faut continuer la résistance pour la grande Palestine libérée, mais en même temps on va accepter des compromis et puis on les accepte plus. C'est un petit peu, je crois qu'ils ont du mal eux-mêmes à définir une véritable ligne de conduite. Hein. Donc dans ces conditions, alors les tensions politiques à gauche, Enfin, si c'est là-dessus que tu poses la question, enfin, les tensions politiques entre la gauche et le Fatah, c'est tout simplement, enfin, ce que j'appelle moi la gauche, c'est-à-dire, on peut dire, c'est-à-dire, le parti du peuple palestinien qui est l'ex-PC, le FPLP, qui est la formation qui a eu le plus de voix, de gauche qui a eu le plus de voix aux dernières élections, et la mouvance. De Barghouti, l'autre Barghouti, pas Marwan, Mustafa, c'est comment dire, c'est un projet différent, un projet de société différent. Fatah se satisfera très bien d'avoir des confettis de territoire, enfin la majorité de Fatah, hein, qui représente vraiment la bourgeoisie palestinienne, le comprador, qui est affairiste, avec des gens comme qui ont été ministres, comme Ahmed Korey, qui fait fortune en vendant son ciment, le ciment de ses cimenteries aux Israéliens pour construire les colonies, etc. Donc toute cette partie de Fatah se satisferait très bien de confettis de Palestine, à condition que le business reprenne. Parce que pour eux, c'est ça qui est important, c'est que le business reprenne. Du côté de la gauche, il y a un autre projet. Évidemment, il y a un autre projet de société qui est de répartition des richesses. Bon, enfin, c'est pas un programme révolutionnaire qu'ils ont encore très bien affiché. Mais je veux dire, il y a certainement une bataille. Il y a une bataille contre cette bourgeoisie affairiste. Et les enjeux de pouvoir sont là. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ta question.
Alors, au cas où elle n'est pas bien répondu à la question, Nicolas, qui était à la tribune ce soir-là, répond lui aussi sur la situation politique en Palestine, en revenant particulièrement sur l'opposition Hamas-Fatah.
On ne peut pas comprendre actuellement l'opposition même entre Fatah et Hamas et toutes les tensions internes qu'il y a en Palestine sans remettre... En plus, ce qui s'est passé depuis janvier 2006, c'est-à-dire depuis l'élection de Hamas, c'est-à-dire que depuis l'élection de Hamas, on voit quoi? Je pense qu'on voit très clairement une partie du Fatah, notamment celle autour d'un dirigeant de Gaza qui s'appelle Mohamed Dahlan, plus les anciennes autorités autour de Ahmed Khorey, comme l'a dit Mireille, collaborer véritablement avec la communauté internationale autour de la destruction pure et simple d'un gouvernement élu. Parce que depuis 6 mois, mais qu'est-ce qu'on a eu? Je veux dire, en janvier 2006, on a une triple offensive sur les Palestiniens. Dès que Hamas est élu, ils ont une triple offensive sur la tête. Ils ont quoi? Ils ont, premièrement, on leur supprime l'aide financière. Deuxièmement, Israël multiplie ses attaques. Troisièmement, une partie du Fatah joue grosso modo au jeu de la guerre civile, notamment à Gaza, c'est-à-dire à des affrontements armés entre ces hommes et ceux du Hamas. C'est-à-dire on a une offensive qui est interne, plus une offensive des Israéliens, plus une offensive économique de la communauté internationale. Ça, c'était le premier truc. Et il y avait une partie du Fatah qui soutenait ça. Après, on a eu quoi? On a eu l'affaire du document des prisonniers. Le document des prisonniers, c'était vraiment quelque chose d'historique et d'extrêmement positif. Mais qu'est-ce qu'a fait Mahmoud Abbas? Il dit, je vais imposer le document des prisonniers et je vais le faire passer par référendum, alors même que ce document des prisonniers n'avait pas encore été discuté dans les organisations politiques. C'est-à-dire que ce document des prisonniers a été signé par des dirigeants du Hamas, du djihad islamique, du Fatah, du FPLP qui étaient en prison et qui ont dit « Nous soumettons ce document à la discussion de nos organisations politiques ». Mahmoud Abbas, il dit quoi? Il dit « Ce document, on va l'adopter, si vous ne voulez pas l'adopter, on le fait passer par référendum ». C'est une sorte de coup d'État. On appelle ça un coup d'État, tout simplement, je veux dire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le djihad islamique qui avait accepté le document des prisonniers s'est retiré et a dit « Nous, on n'accepte pas ce chantage et on se retire ». Si Mahmoud Abbas fait du chantage avec le document des prisonniers, alors nous, on retire le document des prisonniers. Ça, c'était le deuxième truc. Et maintenant, le troisième truc. Hamas a accepté un gouvernement d'union nationale, et que fait Fatah? Il essaye de replacer ses hommes, alors que la seule condition qu'avait mis Hamas, c'est de dire on veut bien d'un gouvernement d'union nationale, mais on veut pas les anciens corrompus, notamment on veut pas remettre Khorey. Or que fait Fatah? Il dit non, on va remettre les anciens. Or, dans le programme du Hamas, il y avait la lutte contre la corruption, donc c'est un peu dur par rapport à leur électorat d'accepter des types qui ont détourné énormément d'argent ces dernières années. Et grosso modo, il y a 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? La direction de Fatah a envoyé une lettre à Mahmoud Abbas en lui disant « Maintenant, c'est le moment, dissous le Conseil législatif, tu as le droit constitutionnel de le faire, dissous le Conseil législatif et on fait de nouvelles élections et celle-là, on va les gagner. » C'est-à-dire que depuis 6 mois, on ne peut pas penser l'affrontement entre Hamas et Fatah sans penser ce que fait une partie de la direction de Fatah, c'est-à-dire s'allier très clairement tout simplement à la position américaine et à la position française et à la position anglaise, c'est tout. Je veux dire, il y a clairement aujourd'hui une partie du Fatah qui est en train de s'aligner sur cette position et qui effectivement veulent retrouver les intérêts qu'ils avaient avant. Et ça, c'est, C'est très difficile de comprendre les rapports de force en Palestine sans comprendre cette opposition fondamentale entre le Hamas et le Fatah. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique notamment le fait que le Front Populaire de Libération de la Palestine soutient plutôt dans le conflit actuel Hamas que Fatah. Voilà.
Voilà, on aurait bien fait une pause musicale, mais sinon on n'aura pas le temps de passer tout ce qu'on voulait passer ce soir. Donc pas de pause musicale, mais deux fois du dessert, puisqu'on va revenir dans ce qu'on va entendre tout de suite sur le Liban, sur son armée, sur la veulerie des États arabes, sur les liens entre le Hamas et le Hezbollah. Et on commencera par parler du Hezbollah et de l'armée libanaise.
Il y a une collaboration entre l'armée et Hezbollah, donc effectivement, tout processus de résistance actuellement dans la région, on peut le penser que par rapport à un parti politique ayant une milice populaire, parce que effectivement, dans un face-à-face de deux armées, Israël a le rapport de force. Par contre, dans un face-à-face avec une guérilla, Israël n'a pas forcément le rapport de force. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur Hamas-Hezbollah, ils ont une alliance, c'est-à-dire d'abord, ils ont une alliance au Liban, parce que Hamas existe au Liban dans les camps de réfugiés palestiniens, ils rencontrent régulièrement Hezbollah, ils discutent ensemble. Hezbollah aujourd'hui est devenu un exemple pour tous les mouvements islamiques et les oblige à se positionner. Par exemple, c'est très compliqué comme question, parce que Hezbollah aujourd'hui provoque une crise dans toutes les organisations politiques et dans tous les régimes arabes, en fait, c'est ça. Il provoque une crise politique chez les islamistes. Pourquoi ? Par exemple, il provoque une crise politique chez les frères musulmans égyptiens, parce que les frères musulmans égyptiens, depuis des années, sont dans une ligne, grosso modo, on critique l'État, mais on collabore avec lui quand ça nous arrange. Pour la première fois, il y a un exemple dans le monde arabe d'un parti politique qui, lui, n'accepte pas de collaborer, qui est un parti politique qui soutient plutôt les classes populaires et non pas la petite bourgeoisie, etc. Donc, ça, il y a des fractures aujourd'hui dans le mouvement islamiste qui est obligé de se repositionner. Dans les régimes arabes, ce qui est intéressant de voir, c'est que je pense que ces régimes arabes ont fait une erreur fondamentale, mais tant mieux, parce qu'ils ont révélé au grand jour vraiment leur veulerie, quoi. C'est-à-dire, dans les premiers jours, ces régimes arabes ont dit quoi ? Ils ont dit « l'action de Hezbollah est aventuriste ». Ce à quoi Hezbollah a dit « oui, on est aventuriste, et on a été aventuriste aussi en 2000, et en 2000, on a redonné sa dignité au peuple arabe. Donc soyons encore aventuristes une deuxième fois, et si vous voulez pas être aventuriste avec nous, tant pis, vous tomberez un jour ». Et c'était quelque chose d'absolument incroyable, parce que Hezbollah avait toutes les raisons de se faire isoler. Il était isolé dans ce conflit. On pouvait penser qu'il allait pas critiquer les régimes arabes, et il a critiqué les régimes arabes encore plus fort que ce qu'il fait d'habitude. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Quand, dans les discours de Nasrallah disait au régime arabe, soit vous nous soutenez, soit sinon, grosso modo, ça veut dire que vous soutenez le projet américain, et un jour, vos trônes tomberont. C'est comme ça qu'il l'a dit, vos trônes tomberont. C'était un défi. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie, dans les premiers jours, ont dit à Hezbollah, vous êtes aventuriste, mais pas seulement. L'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Égypte ont une coordination politique et militaire depuis des années avec les États-Unis, et les États-Unis transmettent leur information tout simplement à Israël. Donc je veux dire, c'est ça qui s'est révélé au cours de ce conflit, c'est véritablement non pas seulement le soutien politique des États-Unis à l'Arabie Saoudite ou à l'Égypte, mais inversement le soutien politique de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Jordanie à des régimes aux États-Unis et de biais forcément face à Israël. Donc actuellement ça provoque une crise. Il y a une deuxième crise aujourd'hui qui s'est déclenchée, c'est dans les armées arabes. Il faut se souvenir que dans le monde arabe, l'armée, ça a toujours été un point extrêmement central, parce que par exemple le nasserisme, le mouvement national nasserien, le nationalisme égyptien, est né dans l'armée avec le coup d'état de 1952 et l'arrivée de l'armée au pouvoir. Aujourd'hui, il y a de véritables fractions dans l'armée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de militaires dans l'armée syrienne aussi, dans l'armée égyptienne, sont en train de se dire « mais attendez, c'est quand même bizarre, il y a une milice populaire » grosso modo, obtient des résultats que nous, on n'a jamais obtenus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et aujourd'hui, il y a des gros débats. Ce n'est pas des débats officiels dans l'armée, mais il y a des fractures. Il y a des officiers aussi qui commencent à se poser des questions. Et là, dans l'avenir, on va voir aussi ce qui va se passer. C'est-à-dire que, pour le moment, ça n'a pas provoqué de révolution maintenant dans le monde arabe, mais grosso modo, ça commence à faire des fractures partout, parce que les États arabes ont montré officiellement, grosso modo, de quel côté ils sont. Dans l'armée, il y a des fractures. Dans les populations, il y a eu des manifestations. Les populations ont dit, voilà, maintenant, ça suffit la ligne des négociations et on obtient des choses, des fois, en ne négociant pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier, mais ça veut dire qu'à certains moments, on ne négocie pas et notamment on essaye d'imposer un rapport de force. Et c'est pour ça que je dis que les effets de ce qui s'est passé en juillet et août 2006, ça va se jouer, à mon avis, à très long terme. C'est-à-dire c'est un tournant, mais ça va se jouer à long terme. Mais il y a déjà des fractures, grosso modo, dans le monde arabe en entier. Enfin, un seul exemple, c'est l'Arabie Saoudite. Ça faisait des années et des années qu'il n'y a pas eu de manifestation en Arabie Saoudite. Pendant le conflit de juillet et août 2006, il y a eu un conflit en Arabie Saoudite. J'ai un ami, je lui dis, il y a eu des manifs en Arabie Saoudite, je lui dis, il n'y en a pas eu depuis quand ? Il me dit, il n'y en a pas eu depuis le prophète. Et grosso modo, c'est exactement ça. Il me dit, c'est la première fois depuis le prophète qu'il y a des manifestations en Arabie Saoudite, c'est une révolution. Mais c'est vrai, en Arabie Saoudite, ça ne bouge, ça bouge très très peu. Il n'y a jamais rien. Donc on a vu des pays comme ça où il n'y a pas normalement de mouvement, où les populations n'osent pas manifester du fait de la répression, et bien ces populations, d'un seul coup, pour la première fois, même depuis, je dirais, les années 50, depuis justement cette période d'effervescence autour du yasserisme, etc., ces populations, grosso modo, ont commencé à bouger. Et je pense que vraiment ces événements du août 2006 vont mettre à terme les États arabes, de fait, dans une grande, grande difficulté politique. Quelle va être à l'avenir la pérennité du régime de Moubarak en Égypte? J'en sais rien. Il n'a plus aucune légitimité. Après ce conflit, il en a encore moins qu'avant. Mais en même temps, le message de Hezbollah, ça a été un message adressé à tous les partis. Aujourd'hui, tous les partis politiques sont en train de se demander, c'est-à-dire des islamistes à gauche, sont en train de se demander comment résister, comment capitaliser, je dirais, ce qui s'est passé en juillet août 2006 au Liban. C'est-à-dire quel va être notre programme, quelles vont être nos alliances, avec qui on doit être alliés, qui est-ce qu'on doit attaquer? Est-ce qu'on doit s'attaquer de front au régime arabe? Est-ce que notre principal ennemi, c'est Israël? Est-ce que notre principal... Il y a toutes ces questions. Aujourd'hui, il y a énormément de débats dans le monde arabe qui commencent vraiment dans la rue, également dans les journaux. Il suffit de lire les journaux en ce moment, les journaux arabes. Il y a énormément de choses qui se passent, mais je pense que tout ça va se jouer véritablement sur le long terme.
Alors, dans ce nouvel épisode, vous entendrez parler du Hezbollah et des contradictions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui, mais joie au bonheur, vous entendrez aussi parler du FPLP et du Parti communiste libanais.
Pour résumer, je pense qu'on a eu une nationalisation du mouvement islamique, c'est-à-dire le mouvement islamique, pour des raisons historiques, s'est retrouvé à prendre en charge les tâches de la libération nationale arabe, libanaise, palestinienne, ce que tu veux. C'est pas forcément ce qu'il voulait au début. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient dans les années 80, mais c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont obligés de mettre en adéquation cette pratique, leur pratique politique, avec la nouvelle réalité, avec ce à quoi ils sont confrontés. Je veux dire, Hamas, je ne suis pas sûr qu'ils voulaient le pouvoir en Palestine. Maintenant, ils ont le pouvoir. Effectivement, ce qui se débat dans Hamas, ce n'est pas l'application de la charia, c'est comment payer les salaires, qu'est-ce qu'on va faire avec les Américains, qu'est-ce qu'on va faire avec les Français, qu'est-ce qu'on fait avec Fatah, comment est-ce qu'on discute avec FPLP. Maintenant, les mouvements islamiques sont obligés de se poser des questions politiques dans des espaces nationaux et dans des espaces concrets. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour eux. Et c'est pour ça que la situation est en train de considérablement changer. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais essentialiser les mouvements là-bas. Encore un exemple historique, c'est que le nasserisme, pour revenir encore au nasserisme, mais c'est exemple typique, la majorité des officiers qui ont fait le coup d'État nassérien, etc., en 1952, et qui donc allaient créer le nouveau régime, qui n'était pas un régime islamiste, qui était plutôt un régime d'orientation nationaliste, qui après a fait la réforme agraire et compagnie, et qui a pris une petite orientation socialisante, on va dire, tous ces mecs qui ont fait ça étaient dans les Frères musulmans avant. Tous, c'est-à-dire c'était des cellules d'officiers qui sont créées dans les Frères musulmans. Alors le truc des islamistes qui vont appliquer la charia, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on voit même qu'il y en a qui peuvent en sortir pour créer autre chose, et que finalement, si beaucoup s'engagent dans ces mouvements, c'est pour une simple raison, ils ont besoin d'un courant national, c'est tout. Et ils vont là où est le courant national, et si le courant national il est nationaliste arabe, bassiste, etc., on va chez les bassistes. Si aujourd'hui il est islamiste, on va chez les islamistes. Mais le fait est que ces organisations sont en train de profondément se transformer, et que la situation est tout à fait nouvelle. Je veux dire, Hezbollah, c'est un mouvement, on a beaucoup de mal à le comprendre, et même le Parti communiste libanais, à mon avis, ils ont une manière très fine de s'adresser à eux actuellement. On a du mal à le comprendre, pourquoi? Parce que c'est un mouvement islamiste qui est le premier et le seul pour le moment à dire officiellement un État islamique n'est pas possible au Liban, donc c'est quand même bizarre pour un mouvement islamiste qui dit un État islamique n'est pas possible au Liban. Deuxièmement, c'est un mouvement qui accepte de travailler avec la gauche, et ça depuis longtemps ça a été l'un des premiers, la coordination avec le Parti communiste libanais c'est à peu près depuis les années 90, c'était quelque chose à l'époque que personne faisait. Donc une capacité à discuter tout à fait nouvelle. Troisième exemple, peu de gens le savent, mais maintenant on peut commencer à le dire, c'est le seul parti islamiste à envoyer des militants dans les forums sociaux mondiaux pour écouter, c'est-à-dire, ils ne vont pas pour truster, ils vont écouter. C'est-à-dire, ils y vont, ils ne se présentent pas comme Hezbollah, ils prennent les textes et ils les traduisent et ça passe dans leur direction. C'est le seul mouvement islamiste à faire ça, citez-moi un autre. Et il y a des mouvements de gauche aujourd'hui qui ne vont pas encore dans les forums sociaux mondiaux, qui ne savent même pas que ça existe. Eux, ils vont écouter. Ça ne veut pas dire qu'ils adoptent les thèses, ça veut dire que ça les intéresse. Ils sont en train de se poser des questions, ils ont des cadres politiques assez intéressants qui sont en train de se poser des questions. Donc on est dans des mouvements qui sont dans une pleine évolution parce qu'ils sont dans des espaces nationaux et que justement ils ne peuvent pas appliquer leur programme de... C'est des partis qui pendant toutes les années 80 ont parlé de l'Oumma islamique, de la communauté islamique. Et du jour au lendemain, ils ont dû découvrir que non, les gens étaient d'abord palestiniens, étaient d'abord libanais, étaient ensuite arabes, et puis qu'effectivement, ils étaient musulmans. Et grosso modo, aujourd'hui, quand on lit les déclarations de Hezbollah ou de Hamas, ce qui sort surtout, c'est pas la dimension islamique, c'est la dimension nationale et c'est la dimension arabe. Donc on a des partis qui se transforment véritablement en profondeur, et je pense que la position du Parti communiste libanais ou du FPLP, elles sont intéressantes, parce qu'elles disent quoi? Elles disent, on a une alliance tactique, celle-là, elle est sûre, elle est certaine, sur la question nationale et sur la question de la libération nationale, on est d'accord à 100% avec eux. Maintenant, tout le reste, on est en désaccord idéologique, mais on sait que ces partis, il y a des débats et qu'ils évoluent et que c'est des partis nationalistes et qu'ils sont en contradiction sur plein de sujets. Donc on essaye de les tirer et surtout on les critique. Un exemple. En 2000, Israël part du sud Liban. Hezbollah, qu'est-ce que fait Hezbollah? Au lieu de capitaliser sa victoire, il s'allie avec la bourgeoisie libanaise. La bourgeoisie libanaise qui lui a tiré dans le dos pendant des années. Que fait la bourgeoisie libanaise en 2004? Elle lui retire dans le dos avec la résolution 1559 et l'alliance avec les Américains et l'alliance avec les Français. Le parti communiste libanais, il dit quoi à Hezbollah? Il dit pas t'es bête, il dit pas t'es intégriste, je discute pas avec toi. Il dit tu as fait une erreur. En 2000, tu n'aurais pas dû t'allier avec ces gens-là, tu aurais dû t'allier avec nous. Ça, c'est-à-dire le parti communiste libanais fonde la politique. C'est-à-dire ils disent voilà, maintenant il faut choisir tes amis. Soit tes amis c'est la gauche et les nationalistes arabes et ceux qui sont battus avec la question nationale peuvent aussi se battre sur toi, sur d'autres questions. Soit sinon, si nous on n'est pas tes amis, alors choisis tes autres amis, mais regarde ce que font tes autres amis, ils te tirent dans le dos, donc choisis. Soit tu travailles avec les confessionnalistes, soit tu travailles avec nous. Et ça c'est une position extrêmement intelligente, et ça, c'est à partir de ça que se crée le débat, et c'est la position du Parti communiste aujourd'hui, de dire on a une alliance tactique, et sur les alliances stratégiques, on critique Hezbollah et on essaye de les tirer sur le champ politique. Parce qu'effectivement, si on ne les tire pas sur le champ politique, il y a le risque, effectivement, qu'ils redeviennent comme dans les années 80, c'est-à-dire un parti intégriste islamique. À l'époque, c'est ce qu'ils étaient, mais c'est ce qu'ils ne sont plus. Et quand je dis qu'ils ne sont plus, c'est-à-dire vous allez dans les quartiers Hezbollah de la banlieue sud de Beyrouth, d'accord, une fille non voilée peut ne pas porter le voile, il n'y a personne qui l'emmerde, vraiment. Moi, j'ai des amis qui sont communistes dans les quartiers sud de Beyrouth, je vous assure, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire ce n'est pas un parti de répression sociale. Dans les années 80, c'était un parti de répression sociale. Les militants Hezbollah entraient dans les maisons, brisaient les bouteilles d'alcool, faisaient chier tout le monde. Depuis l'arrivée de Nasrallah en 92, etc., comme secrétaire général, il y a eu une réelle évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers sud de Beyrouth, c'est comme dans le reste de Beyrouth, on fait ce qu'on veut et on vous emmerde pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pas être avec Israël et les Américains. C'est tout. Si vous êtes avec Israël et avec les Américains, oui, là vous dégagez. Là, vous n'aurez pas des amis dans le quartier. Mais sinon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, même de manger pendant le ramadan, à condition de ne pas le faire trop publiquement, mais vous le faites dans votre immeuble, etc. Ça se sait, il n'y aura personne qui vous emmerdera. Vous buvez de l'alcool, ça se sait, il n'y aura personne qui viendra vous emmerder. C'est-à-dire, même sur la pratique quotidienne, c'est plus des gens qui posent véritablement problème. C'est-à-dire, il y a eu une réelle évolution dont tous les militants de gauche là-bas sont parfaitement conscients, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils s'adressent à ces partis en leur disant maintenant, choisis tes amis et accepte, par exemple, de déconfessionnaliser le système politique libanais. C'est-à-dire que le Hezbollah dit il n'y a pas d'État islamique possible au Liban. Alors que lui dit le PCL, il dit va jusqu'au bout de ton raisonnement, déconfessionnalise le système politique libanais, participe avec nous à la déconfessionnalisation de ce système politique. Il y avait une dirigeante du Parti communiste libanais, elle nous a donné un très bon exemple aujourd'hui. Au Liban, le président est chrétien, le premier ministre est sunnite et le président de la chambre du parlement est chiite. C'est obligé. C'est-à-dire que même si Hassan Nasrallah voulait être président, il ne pourrait pas. Et ça, c'est un argument qu'a utilisé cette dirigeante du Parti communiste libanais. Elle dit, quand on s'adresse à Hassan Nasrallah, on lui dit, regarde la débilité de ce système confessionnel, religieux, etc. Même si tu voulais être président, tu pourrais pas. Tu pourrais juste être président de la Chambre du Parlement. Alors réforme ce système. Si tu veux vraiment arriver au pouvoir et appliquer tes idées, dans ce cas-là, va jusqu'au bout et réforme ce système, parce que même ce système, il dessert tes propres intérêts. Et c'est ça, aujourd'hui, s'adresser au mouvement islamique. C'est-à-dire, c'est ça, s'adresser au mouvement islamo-nationaliste. C'est le meilleur moyen, c'est pas de les traiter d'intégristes à longueur de temps, c'est de les mettre face à leurs propres contradictions et leur dire maintenant tu es un parti arabe, tu es un parti libanais, tu es un parti palestinien, tu prends tes responsabilités et tu choisis tes amis et tu commences à véritablement faire de la politique. Je pense que c'est ça la démarche qu'il faut adopter. Maintenant, en France, etc., c'est vrai que ça va être difficile de dans les manifestations, c'est pas des slogans qu'on va porter, il faut avoir une analyse sur ces courants-là. Il faut pas se taire non plus, ce que je veux dire c'est... Dans les manifestations, etc., et dans les collectifs, on doit avoir des mots d'ordre larges, ça je suis d'accord, mais en même temps, il ne faut pas se taire sur la réalité là-bas, il ne faut pas se taire sur les débats qui fâchent. Pourquoi il ne faut pas se taire par les débats qui fâchent? Parce qu'aujourd'hui, une partie de la bataille, c'est une bataille idéologique, parce que toute la bataille idéologique, justement, des États-Unis, etc., et de plein d'autres forces comme ça, c'est de dire, regardez, ces islamistes, c'est tous les mêmes, Ben Laden, Nasrallah, même combat. Nous, on doit mener le combat idéologique ici aussi, dans les débats, pour dire, non, c'est pas les mêmes, et il y a des différences. Donc il ne faut pas abandonner ce terrain de l'analyse politique de ce qui se passe précisément sur le terrain.
Voilà, vous avez été bien aimable d'écouter jusqu'au bout cette émission, puisque le son était à la hauteur.
À la hauteur, je n'avais pas prévu la fin de ma phrase, donc je me plante.
Donc on dira merci à Gwen pour le son. C'était donc une réunion publique organisée le 14 septembre par nos petits camarades de la LCR du 20e dans un bar qui s'appelle Retour au Sorbier, rue Sorbier. Et voilà.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées. We'll be right back.
Voilà, alors si vous voulez réécouter cette émission, deux solutions, soit vous nous écoutez le vendredi de 12h30 à 14h, puisqu'on a désormais une rediffusion tous les vendredis de 12h30 à 14h, en plus du mercredi 19h, et sinon vous allez sur votre ordinateur, vous faites http://loldf.free.fr, loldf, comme les oreilles loin du front. Alors ce soir, c'est une émission qui s'est faite sans Fred, hein, sans Fred, qui est parti surfer à Biarritz. Alors Biarritz, pour vous situer, c'est un endroit où on reçoit même pas FPP et où pour y aller en métro, faut une carte orange, 326 zones. Alors donc j'ai une petite annonce à faire passer, hein. Émission stable, dynamique et de gauche, et parfois un peu alcoolisée, cherche animateur, reporter, réalisateur, compétent, sympa, drôle, buveur et de gauche. Envoyez vos candidatures sur le site des Oreilles Loin du Front, loldf.free.fr, on vient de vous le dire. Et puis bah, bon spot à Fred. Cédric.
Et oui, donc ce soir, il y avait Pierre, Guillaume, Alexandrine, Juliette, Jérémy et Cédric qui vous ont parlé entre autres de Nikonov et de l'art du bourrage des urnes, de Georges Ibrahim Abdallah. On a aussi parlé de la Suisse sans vous parler de Jean Ziegler. On vous a parlé, on a beaucoup entendu aussi le moteur de l'ordinateur de Juliette. On vous a parlé du 21 rue Voltaire. On vous a parlé de Tlaoun Jezès. Mais on va laisser le mot de la fin à Jérémy. Je cite, on a descendu quand même ce soir.
Allez, voilà, on vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, c'est Claudie, c'est Claudia, puisque ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ciao.